18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Avec le rappel des titres de l'actualité, François Claus.
C'était l'un des hommes les plus recherchés au monde dans le domaine de la diffusion d'images et de films à caractère pédopornographique. Il a été identifié, c'est un Français de 40 ans dans la région de Bordeaux. Il a été interpellé, a annoncé aujourd'hui la procureure de Bordeaux au terme d'une longue enquête de longue haleine menée conjointement par les enquêteurs de l'Office central pour la répression des violences aux personnes et Europol dans ce monde très obscur du Darknet. Alors qu'en Mayenne, on a commencé aujourd'hui à procéder au dépistage massif de la population dans des centres spécialement dévolus, des médecins des quartiers nord de Marseille s'inquiètent à leur tour et tirent la sonnette d'alarme en constatant sur le terrain un doublement en 48 heures des cas de Covid-19 dans leur secteur. Les accords du Ségur de la Santé officiellement signés cet après-midi, le Premier ministre Jean Castex évoque une page d'histoire pour l'hôpital en France. Quand les personnels soignants apprennent eux à défiler, ultime répétition cet après-midi à Paris, avant le défilé inédit du 14 juillet demain. En Coupe d'Europe de football, le tribunal arbitral du sport s'impose devant l'UEFA. Suspendu par les dirigeants du foot européen, le double champion d'Angleterre, Manchester City, réhabilité par le tribunal. Manchester City qui pourra disputer les deux prochaines saisons de Coupe d'Europe.
Merci François Claus. Édition complète à 19h. La météo des plages, Anissa. On commence avec les plages du Nord et de la Manche. Et là, il faudra troquer le maillot contre un ciré, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement, Thierry. Demain, on va plutôt partir à la chasse aux coquillages que la baignade hein, demain, parce que la journée s'annonce humide sur les plages du Nord-Ouest, avec par exemple en Normandie, à Dieppe, une matinée pluvieuse, quelques éclaircies dans l'après-midi. Là, vous pourrez peut-être aller faire une petite virée sur la plage, 21 degrés sur la plage, 18 dans l'eau. En Ille-et-Vilaine, à Dinard, ciel nuageux avec des petites pluies. Dans l'après-midi, quelques timides éclaircies, 18 degrés sur la plage et 18 degrés dans l'eau. Et puis sur la côte atlantique, c'est nuageux de la Bretagne sud à la Gironde et puis des Landes au Pays Basque. Là, le soleil est bien présent avec, par exemple, sur la grande plage de Biarritz, 27 degrés demain sur la plage et 23 dans l'eau. Dans une heure, je vous emmène en Méditerranée et en Corse.
Parfait, à tout à l'heure. Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, autour de vous, Thierry Dagiral, Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, et Alexandre Malafaï, président du think tank Sinopia.
Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Merci d'être présent sur Europe 1 ce soir. Alors que la nation va rendre hommage demain aux soignants, le Ségur de la Santé apporte-t-il des réponses fortes? Roselyne Fèvre.
Oui, en tout cas, en sonnant et trébuchant, c'est assez fort, 8 milliards d'euros,
un peu plus de 8 milliards.
Pour l'ensemble du système de santé, c'est énorme, je crois que c'est même historique. Je crois que le point d'indice n'avait pas été augmenté depuis, n'avait pas bougé depuis 10 ans. Donc cet accord, il est effectivement très concret, hein, puisqu'il répond aux demandes des soignants. Alors, ceux qui vont en bénéficier le plus, c'est ceux qui étaient les plus mal payés, ouais. Hein, comme le paramédical, c'est-à-dire tout ce qui était non-médecin.
Pour eux, c'est 180 euros net par mois, dont 90 euros dès le mois de septembre prochain.
Oui, tout à fait. Donc, alors, ça pose aussi trois questions. C'est vrai que c'est historique, c'est très fort. Les syndicats majoritaires sont contents. En revanche, est-ce qu'il y a les aspects qui touchent l'hôpital qui vont être intégrés dans cette réforme? C'est la gouvernance de l'hôpital, c'est-à-dire les médecins se plaignent de l'administration qui est très forte. En quelque sorte, l'administratif a pris le pas sur la médecine. Ouais. Donc avec le Covid, ça a peut-être changé. Donc ça, est-ce que ça va changer? La deuxième chose, c'est est-ce qu'on va continuer à investir effectivement dans le système de santé et articuler mieux le public et le privé? Et enfin, la troisième chose, c'est faire en sorte que les carrières soient plus attractives et que l'hôpital soit plus attractif. Est-ce que ça va jouer? C'est encore les trois grandes questions, à mon avis, qui restent un peu en suspens.
Alexandre Malafaï. Avancé, moment historique, comme le dit le Premier ministre.
8 milliards pour fixer les esprits, c'est l'équivalent du ministère de la Justice. Ouais. Donc c'est une somme évidemment conséquente.
Il faut la détailler cette somme.
Hein. Absolument.
C'est donc 7,5 milliards pour les personnels paramédicaux, comme l'a dit Roselyne. 450 millions pour les médecins hospitaliers, 124 millions pour les internes. Donc la réponse en termes d'argent, est assez massive.
Elle est massive, elle était nécessaire, évidemment, pour toutes les raisons qu'on peut évoquer, qui ont été évoquées. Il y avait aussi un effet rattrapage. Et puis, il y avait cette échéance de demain. Le président de la République ayant fixé un 14 juillet placé sous le signe de la santé avec les personnes soignants à l'honneur, s'il n'y avait pas eu un accord le 13 juillet. Ouais. On imagine qu'un centre de chaises vides aurait quand même fait tâche demain lors de la cérémonie sur la place de la Concorde.
Ça veut dire quoi qu'on a mis les bouchées doubles tout le week-end pour arriver à ce résultat?
Je pense qu'il n'y avait pas droit à l'échec, là, globalement. Oui. Je pense que, en fait, pour une fois, si je puis dire, ceux qui étaient en situation de revendiquer étaient en position de force parce qu'ils avaient vraiment les moyens de claquer la porte. Et dès demain, vous aurez 500 places vides et ce ne sera pas joli. Voilà. Ouais. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu comme toujours en France depuis 40 ans. On a fait plus facile. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'argent magique, on en a. Mmh. On a distribué de l'argent, on a fait ce qu'il fallait faire pour récompenser ceux qui devaient être récompensés, révaloriser les carrières, les professions, etc. C'est très bien. Mais les vrais gros sujets sont devant nous. Pardon. La question, c'est comment, en effet,
on réorganise l'hôpital public.
Mais le système de soins en France, à la fois sur le volet préventif et sur le volet protection. On a très, très mal géré cette crise parce qu'on n'était pas outillé pour. À quel moment on dote notre pays d'un système extrêmement réactif? À quel moment, par exemple, on prend modèle sur le système de veille du ministère de la Défense pour créer, par exemple, un institut de sûreté biologique? À quel moment on remet à place la gouvernance? À quel moment on redéfinit le rôle entre les patrons des ARS, dont on a vu qu'ils n'étaient pas toujours très efficaces et très bons, et les préfets? Il faut savoir quand même que les préfets se sont vus totalement retirer de leurs prérogatives la gestion de cette crise, parce que c'est les ARS qui ont pris la main. Donc à un moment donné, il y a une espèce de cafouillage général qu'on a pu voir dans cette crise. Il faut en tirer les leçons, mais c'est le plus dur. Parce qu'à chaque fois qu'on veut s'attaquer à l'État profond, entre guillemets, c'est toujours le plus difficile. Ouais. Voilà, donc ils ont fait le facile. Voilà, ils ont distribué, vous achetez la paix sociale à court terme. Maintenant, si on veut que le pays se modernise vraiment, il faut aller au bout d'une réflexion de fond.
39-21, on écoute nos auditeurs. Bonsoir Agathe.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Paris et vous êtes étudiante infirmière à Bobigny, c'est ça?
C'est ça.
On vous écoute votre réaction ce soir, Agathe.
Alors moi, ma réaction, c'est que l'argent qui a été débloqué, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est un grand pas en avant. Mmh. Mais la seule chose qui m'ennuie un peu, c'est que ça a été fait après une pandémie, en fait. Ça fait plusieurs années désormais qu'on dit que l'hôpital public est en manque de moyens et de personnel. Et ce n'est pas une nouveauté. Et c'est dommage qu'il ait fallu attendre une crise mondiale pour s'en rendre compte et puis débloquer des moyens.
Merci à vous, Agathe, de nous avoir contactés au 39-21. C'est vrai que ça fait maintenant quoi, 20 ans qu'on entend les plaintes des soignants et que l'hôpital public est malade, Rosine Fèvre.
Mais c'est vrai, elle a raison. C'est qu'il aura fallu une crise pour qu'on se mette au chevet de l'hôpital. Mais bon, on pourrait dire ça de plein d'autres... système, hein. On pourrait dire ça de l'Europe qui évolue à chaque crise, on peut dire ça de l'être humain qui va se modifier en fonction de ce qu'il vit. Voilà,
mais là, on l'a vu avec Alexandre, vérité, c'est vrai que là, la vérité nous a sauté à la figure,
visage,
c'est-à-dire qu'on
sûr.
A vu qu'en effet, on manquait de moyens, de lits.
De moyens, de lits, les 35 heures n'ont rien arrangé, que les hôpitaux, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on va aux urgences, d'abord, on attend tous des plombes. Quand vous voyez des médecins, ils sont souvent, même si c'est très bien, mais il y a beaucoup de médecins étrangers qui viennent notamment des pays de l'Est ou d'autres pays parce que l'hôpital n'est plus attractif, parce que ceux qui ont fait 10 ans de médecine préfèrent aller dans le privé pour mieux gagner leur vie, et ça se comprend. Donc il y a un problème véritable de l'attractivité du système français.
Non, mais c'est, si je puis me permettre,
Alexandre Malafaye,
si je peux mettre un petit mot complémentaire.
Bien sûr.
C'est quand même désespérant qu'il faille attendre une crise majeure ou mineure à chaque fois pour finalement se mettre autour de la table.
Mais c'est comme ça qu'on avance, malheureusement.
Je ne suis pas d'accord. C'est comme ça qu'on peut avancer, mais ça ne devrait pas être comme ça qu'on avance à chaque fois. Or, c'est un principe un peu systématique. C'est vrai, en général, dans les grandes démocraties, la nôtre en particulier, globalement, les vrais sujets, on ne les pose pas. On a vu ces 15 dernières années, le primat de la gestion s'imposer partout. On a confondu hôpital et hôtel. Donc, on a géré l'hôpital public comme on a géré des hôtels, avec des logiques de flux, sans justement pouvoir faire face à des aléas et avec une logique du gain petite gestion.
Et on ne sait pas articuler le privé et public non plus, parce qu'on a bien vu dans la crise du Covid que le privé n'était pas aussi engagé que...
Et on voit bien une fois de plus la main invisible de Bercy. On a des gens qui sont extrêmement compétents quand il s'agit de compter, de gérer, d'optimiser, mais qui ne se rendent pas compte. D'ailleurs, on l'a vu avec la crise des masques, avec tous les dispositifs de prévention qu'on aurait pu avoir en amont si on avait choisi de dépenser un peu plus. On aurait certainement sauvé des vies et évité peut-être de confiner le pays comme on l'a confiné. Donc voilà, le sujet maintenant, c'est gouverner ne veut pas dire en permanence faire des économies.
Ouais.
Et quand on regarde, si on compare avec le privé, heureusement que les entreprises privées n'attendent pas les crises pour se réinventer. Et heureusement qu'elles n'attendent pas les crises pour voilà, sortir de nouveaux produits, pour transformer leurs organisations. Elles s'adaptent. Et je pense qu'en effet, l'État, de ce point de vue-là, est profondément défaillant. Et là, c'est toute une succession de gouvernants depuis les années 80, où là, je crois qu'au bout du compte...
Oui, mais regardez aux États-Unis...
Et la destruction du commissariat au plan, qui a été très décriée, il n'empêche que le commissariat au plan permettait d'avoir une mise en perspective des grands sujets, des grands chantiers
qui
devaient normalement traverser les quinquennats ou les septennats.
Rosine en parlait tout à l'heure. Un chiffre, un tiers des effectifs des hôpitaux français sont des personnels non soignants contre un quart en Allemagne. Trop de gestion, trop de tâches administratives.
Mais oui, c'est
pour l'hôpital se perd dans cela.
Bah oui, il se noie dans l'administratif et c'est justement ce qui horripile les médecins, c'est que l'hôpital est devenu une grande administration où dans le fond, ce sont les administratifs qui prennent le pas sur la médecine. Alors est-ce que
ça veut dire quoi que les médecins font autre chose que de la médecine?
Bah la plupart du temps, oui, ils se perdent dans des tâches administratives.
Les chefs de service, c'est les plannings, c'est la gestion.
Exactement. Donc ça, c'est insupportable.
C'est du reporting, du contrôle.
Et
voilà.
Du contrôle.
Alors ça va peut-être changer, parce que la Covid, la crise sanitaire, a redonné du pouvoir aux médecins.
Ouais.
Donc est-ce que ça va...
Il y a des choses intéressantes, pardonnez-moi, dans le secteur de la santé, justement, pour améliorer l'hôpital public, sur ce point-là précisément de l'administratif, il y a des choses intéressantes, Alexandre Malafaï.
Écoutez, dans le détail, on verra, parce que là encore, le diable est toujours dans les détails. Ouais. Il faudra voir la mise en œuvre. Le mal français du poids de l'administration est quelque chose que tout le monde connaît dans tous les domaines. Si c'était que le fait de l'hôpital, à la limite, on pourrait dire, bon, on va traiter le problème. C'est partout. Enfin, il faut, mettez-vous à la place des artisans, des commerçants, des professions libérales. Mettez-vous à la place du contribuable qui fait sa déclaration de revenus. Aujourd'hui, on n'y comprend plus grand-chose. Alors, c'est vrai qu'il y a le prélèvement à la source, c'est assez simplifié, mais les modes de calcul sont devenus totalement illisibles. On ne sait plus du tout comment ça fonctionne. Tout est devenu extrêmement compliqué. Et on prend un malin plaisir en France à avoir une administration qui confond en fait la fin et les moyens. L'administration est devenue la fin, la finalité. Le fait de faire du règlement, le fait du faire du contrôle, c'est devenu
exactement.
Sans parler du blond, l'administration de la santé en est un exemple extraordinaire. Mais on est très fort avec nos agences régionales, nos agences nationales, nos autres autorités indépendantes,
etc. Mais quand est-ce qu'on va s'attaquer à ça alors?
C'était une des promesses du candidat Emmanuel Macron, par exemple.
Mais
à chaque fois, on voit bien qu'on veut s'attaquer à ces problèmes-là. Vous avez une quantité de gens incroyables qui parviennent à se mettre en travers et au bout du compte, qui vont entraver les choses et font que ça n'avance pas. Et c'est un mal français qui nous coûte très cher parce que évidemment, ça nous paralyse. Évidemment, on crée de la norme, on crée du règlement, on crée du contrôle. Regardez, dans les entreprises, le poids du contrôle. Regardez avec le Covid maintenant, ce qui se passe. C'est-à-dire, chaque entreprise met en place des procédures en plus des autres et c'est contrôlé. Je vais prendre l'exemple de mon coiffeur. Il a ouvert il y a quoi, un mois et demi. Il a déjà été contrôlé trois fois. Mon coiffeur de quartier, pour savoir s'il avait bien ses masques, s'il avait bien mis en place ses disques. Et ceux qui ne le font pas, ils ont été fermés.
Mais pardonnez-moi.
L'administration est là, quoi.
Ça veut dire
d'ailleurs,
quoi
vous êtes très bien coiffé.
Je vous remercie.
Ça veut dire que c'est 8 milliards. Donné à l'hôpital public ce soir, c'est juste une rustine?
Non, c'est pas une rustine. Non, c'est un accompagnement très important de ce qui a été essentiel, c'est-à-dire une reconnaissance du personnel soignant dans leur ensemble.
Tout.
Et c'était nécessaire, parce que franchement, si eux, ils n'avaient pas fait le job compte tenu de la défaillance de l'administration hospitalière et de l'impréparation de nos gouvernants, là, pour le coup, si eux, ils avaient jeté l'éponge ou jeté les masques...
C'est que la première partie,
mais
vous dites.
C'est un morceau du problème. Maintenant, il faut faire tourner la machine autrement.
C'est ça, Rosine Fèvre.
C'est le début. C'est le problème du revers de la médaille d'un État... En France, on va à l'hôpital, c'est gratuit. Vous allez aux États-Unis, vous coûte 1 000 $ et c'est pas plus engageant, franchement.
Vous avez vu
les hôpitaux américains.
Vu le cas de ce vieux monsieur, 70 ans, il rentre chez lui, après avoir été sauvé, il a reçu une facture d'1 200 000 $.
Oui.
Quoi.
Voilà.
Donc, vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler de demain, 14 juillet, et le retour de la traditionnelle interview télé du président sur Europe 1 également. A tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Thierry Dagiral et avec les grandes voix qui vous entourent ce soir jusqu'à 19h, Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24 et Alexandre Malafaï, président du think tank Sinopia. Vous pouvez nous rejoindre au 39-21.
Demain sur Europe 1 à suivre en direct le retour de la traditionnelle interview du 14 juillet du président de la République. Ce sera donc en direct sur Europe 1, édition spéciale jusqu'à 14h30. Le président qui devrait parler de cette possible deuxième vague, dont on parle beaucoup, Alexandre Malafaï.
Si vous me permettez un petit commentaire un peu amusé ou cynique,
Le retour de
3 ans de Nouveau Monde, tout ça pour ça, c'est-à-dire que retour à la case
pour
départ.
Revenir au 14 juillet,
là-dessus,
c'est ça
là-dessus,
particulier, il faut expliquer.
Voilà. Oui, oui, d'accord, mais bon, il avait dit que voilà, on ferait plus de ça chez nous. Ouais. Voilà, il avait décidé que les cabinets ministériels, on les réduisait à peau de chagrin. On a vu que Jean Castex a obtenu qu'on redonne des moyens aux ministres pour travailler. Voilà, donc on voit bien finalement que les expérimentations du Nouveau Monde sont pour partie derrière nous. Après, c'est vrai qu'il y a une circonstance qui fait qu'il faut remettre en perspective. Alors, il coupe un peu l'herbe sous le pied au Premier ministre.
C'est ça. C'est comment vont s'équilibrer les rôles là entre le discours de l'interview et le discours de politique générale.
Rien
ne
change.
Jean Castex, le lendemain.
Pardon, rien ne change. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand Emmanuel Macron est arrivé aux affaires. Mmh. Il a convoqué le Congrès et puis il a fait parler son Premier ministre après. Ouais. En 2017, ouais. Il a d'abord convoqué le Congrès et après le Premier ministre, il a dit OK. Bah, en fait, le Premier ministre aujourd'hui, c'est une espèce de directeur général délégué. C'est comme ça que ça se passe. Et si j'ai bien compris ce que veut faire le président à partir de la rentrée, c'est reprendre tout en main, bride courte, parce que voilà, il est face à des échéances. Il a mis ses hommes à lui. Ouais. Mais il a un casting intéressant. Il y a des gens qui vont certainement faire le job, comme on dit. Il faut l'espérer en tout cas. Le pays en a besoin. Mais il va y avoir un pilotage, je pense, extrêmement serré avec Matignon et avec les cabinets.
Mais Roselyne Fèvre, demain, ça veut dire quoi? C'est aux grandes lignes pour Emmanuel Macron et le lendemain, les détails avec son Premier ministre?
Oui, c'est ça. C'est que lui va fixer, non pas le cap, puisqu'il a dit qu'il n'y aurait pas de changement de cap, mais il va donner la perspective, il va dire sa vision, qu'est-ce qu'il veut faire, les grands axes de ce qu'il lui reste à faire à l'Élysée. On verra. Et il veut revenir sur la réforme des retraites. Alors,
ouais. On va en parler tout à l'heure,
voilà.
Justement.
Donc, c'est ça, en fait. Et effectivement, le Premier ministre va être dans la tuyauterie et dans les dates, les calendriers. Mais ça, on est dans du grand classique.
Bien
parce
sûr.
Que moi, j'entends, oui, super directeur de cabinet. Mais on disait ça déjà de François Mitterrand lorsqu'il a nommé en 84. Laurent Fabius à la place de Pierre Mauroy, un journal avait titré Mitterrand à Matignon. Donc on nous ressort quand même, nous aussi on est vieux monde, pardon, et on se répète depuis 30 ans quand même, Alexandre, à ressortir nos plats avariés de nos analyses politiques quand même. Je m'auto-flagelle.
Mais c'est bien, c'est bien.
Non, mais c'est vrai. Ça fait 30 ans qu'on entend ça.
Les institutions...
Ah, super directeur de cabinet...
C'est vrai qu'on parlait quand même d'un collaborateur la semaine dernière pour Jean Castex. On a vu quand même que...
Vous avez raison, mais soit les institutions sont respectées, soit elles sont dévoyées. Or, elles sont dévoyées depuis très longtemps.
Mais parce que qu'est-ce qu'il y a de dévoyé là-dedans?
Mais que la séparation des pouvoirs est finalement quelque part, quand on regarde l'esprit des institutions, c'est le fait d'avoir un président qui est vraiment au-dessus de la mêlée, au-dessus des partis, qui doit prendre du temps et du recul pour pouvoir justement essayer d'inspirer les choses, mais après de laisser faire. Ça, c'est l'esprit des institutions. Mmh. Voilà, ça a été dévoyé régulièrement.
Mais le quinquennat
aussi. A accéléré en grâce le
défaut
du système.
Le président de la République donne le cap et le premier, comme disait Chirac, le Premier ministre exécute.
Oui, non, mais on est d'accord sur cette répartition-là.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil,
sauf que là, on voit bien qu'aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a des
conseillers... C'est toujours la critique qu'on fait au président de la République de lui dire...
Attendez, quand toutes les décisions sont prises à l'Élysée, y compris dans le détail du détail, on n'est plus dans une délégation de pouvoir et de partage du pouvoir. Voilà, quand vous avez des conseillers qui sont partagés entre l'Élysée et Matignon et que c'est le cœur du pouvoir qui prend les décisions à l'Élysée, le reste n'est qu'un système d'engrenage qui met en œuvre.
Oui.
Or, je pense qu'à un moment donné, si vous voulez, le contrôle par l'hyper-sommet et par un noyau de 4 personnes du pays a montré sa défaillance majeure.
Aujourd'hui, là, je suis d'accord là-dessus.
Aujourd'hui,
là-dessus,
on doit remettre à plat, là encore, la gouvernance du pays et qu'effectivement, pour revenir à votre question sur demain, c'est demain, il lui reste une petite année pour, avant qu'on rentre vraiment dans le cycle de la campagne électorale, il lui reste un petit bout de temps pour le budget 2021 sur lequel il y a quelques marges de manœuvre certainement à trouver. Mmh. Après, ce qu'on attend de lui, c'est un peu de visibilité et surtout, à mon avis, c'est pas de grands discours, de grandes promesses. On est dans un tel état, c'est qu'il y a une vague énorme. En fait, je crois qu'on n'a pas vu encore les conséquences du tsunami. On est sur la plage de Banda Aceh, vous voyez, on voit la vague arriver, mais on ne sait pas quand elle va arriver. Mais on sait qu'en partant de septembre, ça va être très compliqué. On peut parler d'un automne social, d'un automne économique, d'un automne démocratique. On verra ce qui va se passer. En tout cas, le président doit donner de la visibilité, c'est sûr. Être rassurant, c'est vrai. Mais surtout, des choses simples. Les pas que l'on peut accomplir. Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme? Parce que c'est ça qui va guider les Français. Ce n'est pas de grandes envolées, de lyrisme. On a besoin de concret, de pragmatisme et d'essayer de retisser un peu de confiance parce que très sincèrement, elle a été bien piétinée depuis ces 3 dernières années.
La parole à nos auditeurs. André, bonsoir. Vous nous appelez du Bas-Rhin, André.
Tout à fait. Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous appelle simplement, si j'étais à la place de Boulouk ou de Léa Salamé demain, je poserais à Monsieur le Président une question sur les retraites. Quel est l'intérêt de remettre sur le chantier ces retraites après tous les problèmes des gilets jaunes, des grèves de retraite, du coronavirus, etc., alors que même le MEDEF, tout comme la CGT, ils sont hostiles, pas pour les mêmes raisons, ça c'est une chose, mais ils y sont hostiles, donc quel est l'intérêt de remettre ce chantier en marche, pour en fait quoi? Pour 15 à 20 milliards, j'ai fait le calcul, 15 à 20 milliards, c'est les aides qu'on a versées, enfin c'est l'équivalent des aides qu'on a versées à Airbus, à Renault et à Air France. Donc pour aussi peu en comparaison de ce qu'on a dépensé par ailleurs, on va à nouveau générer sans doute des grèves. Et alors je me pose une question, est-ce que ce n'est pas du cynisme? Est-ce que ce n'est pas pour le président la volonté de dire, ben un peu, c'est moi ou le chaos? Autrement dit, je suis le chef, je décide et vous obéissez.
Merci à vous André de nous avoir contacté au 39-21. Roselyne Fèvre, en effet, il faudra que le président demain clarifie sa position sur cette fameuse réforme des retraites.
Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que ça tombe un petit peu à plat. Alors, pour répondre à votre auditeur,
André,
je pense que c'est une question peut-être de gloire personnelle. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de glorieux là-dedans? C'est vrai qu'Emmanuel Macron a été élu en disant « je veux être le réformateur, veux être le transformateur
de ce pays ». Il faut qu'il arrive à la présidentielle avec cette réforme.
Vous parliez tout à l'heure de l'Allemagne. Mmh. Ça fait 10 ans, quand on parle de l'Allemagne, qu'on parle de Schröder, des réformes Schröder. Mmh. Et d'ailleurs, Angela Merkel en bénéficie. On parle, pas pour les mêmes raisons, en Angleterre, de Thatcher. Et on cite encore Thatcher aujourd'hui. Donc, peut-être qu'Emmanuel Macron a, en fait, au fond de lui, envie qu'un jour on cite
dans l'histoire comme celui qui a su moderniser et réformer la France.
Voilà, que Macron a changé le système de retraite, etc. Alors, ce qu'on ne comprend pas bien, c'est qu'effectivement, comme disait André, votre auditeur, on ne comprend pas bien, parce que c'est vrai qu'il y a eu une situation sociale très, très, très lourde, et on n'a pas envie de revivre ça après la crise sanitaire, on n'en a pas besoin. Mais c'est surtout que sous le quinquennat Hollande, il y a eu la loi Touraine qui était censé faire un glissement progressif de la durée de cotisation. Donc on se demande effectivement quel est l'intérêt, quelle est l'urgence, quel est le moment, est-ce que c'est le bon momentum alors qu'on est en plein post-Covid et on se demande si un jour on va reconfiner soit dans des régions ou soit... Bref, la crise économique est là et elle guette. Et je ne vois pas l'intérêt de se remettre cette chape de plomb. Mais je pense, enfin, mon interprétation, je pense que c'est ça. C'est j'ai promis d'être le réformateur, je serai le réformateur que j'ai promis d'être.
Alexandre Malafaye, malgré les syndicats qui en effet sont tous contre, en tout cas c'est priorité à l'emploi au mois de septembre et pas à ce débat sur la réforme des retraites.
Écoutez, s'il le fait, s'il remet le sujet sur la table, c'est vraiment une folie. Ça voudra vraiment dire qu'il n'a rien compris à ce que veut dire gouverner le pays et il va se disqualifier définitivement. La France n'a pas les moyens de replonger dans des grèves, dans des blocages. On avait déjà mis les deux genoux à terre avec 18 mois de gilets jaunes et quasiment 3 mois ou 2 mois et demi de blocage des transports en commun. Si on recommence à la rentrée dans l'état économique du pays, on ferme la France, quoi. Je crois qu'il y a par contre, d'autant plus que le problème est vraiment posé à l'envers. Le sujet, ce n'est pas d'attaquer le problème par l'enjeu des retraites. Ça n'était déjà pas le cas avant la crise que nous avons traversée et avant que les syndicats bloquent les transports en commun. L'enjeu, c'est comment réorganiser le marché du travail. Quel cadre juridique et quel système de financement associé pour les différents systèmes de protection sociale, retraite, solidarité, dépendance, etc. Ouais. Comment on réorganise tout ça? Comment on réorganise le droit du travail? Comment on fait par rapport aux contrats qui sont des contrats de type auto-entrepreneur, les contrats de travail à durée déterminée, les contrats de travail à durée indéterminée? Comment on prend en charge la solidarité, les gens qui sont en perte d'emploi? Est-ce qu'il faut aller vers un revenu minimum garantie. Et une fois qu'on a dit tout ça, comment on travaille, jusqu'à quand on travaille, parce que si on arrête de travailler à 55 ans, ce qui est souvent le cas, et qu'on sort du marché du travail et qu'on a droit à la retraite à 65, pardon, ou à 58, ce qui arrive à beaucoup de gens, on n'a pas fait une réforme des retraites sérieuse. Le but, c'est comment on va jusqu'à la fin de l'âge auquel on travaille pour avoir droit tout de suite à sa retraite dans de bonnes conditions.
Roselyne Fèvre, l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, ça va être aussi la priorité de la rentrée, et j'imagine que Emmanuel Macron en parlera demain dans son interview.
Ouais, bien sûr, on attend d'avoir plus de détails. Bon, Alexandre a dit un petit peu ce qui pouvait, ce ce qu'on attendait en tout cas, parce que c'est vrai que le travail, l'économie est la priorité des Français. Il y a aussi le plan de relance. Xavier Bertrand, ce dimanche dans le JDD, trouvait ça totalement irresponsable que ce plan de relance ne soit que fixé en fin août. C'est vrai qu'il a raison, c'est vrai que c'est un peu tard. On attend de savoir, je crois que c'est autour de 100 milliards d'euros, mais où va être, dans le fond, aiguiller ce plan de relance.
Un mot rapide pour terminer, Alexandre Malafaï, on terminera avec vous. Il y a 70 clusters en France actuellement, on parle du deuxième vague. Nombreux sont ceux qui disent qu'il faut obliger le port du masque. Le Conseil d'État, d'ailleurs, est saisi. Il va en parler demain, Emmanuel Macron. Il y a une peur des Français, il y a une crainte, on entend cela en ce moment.
C'est un vrai sujet, c'est un sujet difficile à trancher. Pour ma part, je pense très simplement que l'être humain n'est pas fait pour vivre avec des masques. Je pense qu'on a traversé des milliers d'années jusque-là sans porter des masques.
Mais c'est la seule solution
pour le moment. Il y a un ensemble de solutions. Voilà. Il y a un ensemble de solutions qu'il faut respecter. En effet, dans les transports en commun, ça paraît être une nécessité pour l'instant. Et à la limite, peut-être qu'il faudrait réfléchir au-delà, parce que c'est une mesure de prophylaxie, de protection, notamment, je pense, aux métros saturés. Ça permettra certainement de réduire le nombre de gastro-entérites, etc., ou de grippe qui se transmet. Ça, je pense qu'il y a des réflexions de fond à avoir. Après, il faut donner du bon sens. Et puis, je crois qu'il faudrait aussi arrêter d'agiter la peur. Parce que pour l'instant, l'épidémie est, on va dire, à peu près sous contrôle. Mais les gens vivent dans un niveau d'inquiétude et de peur qui est, à mon avis, très dangereux pour la suite. Parce que le vivre ensemble ne peut pas être un vivre avec la peur.
Interview télévisée donc demain d'Emmanuel Macron. Édition spéciale, interview bien sûr aussi à suivre sur Europe 1. Édition spéciale à la mi-journée. Merci à vous deux. Merci et bonne soirée.
Merci.